Il est 13h sur BAC FM 106.1. Merci de nous écouter en ce tout début d'après-midi pour le tour de l'info. Nous sommes le jeudi 22 janvier 2026 et vu qu'on a parlé de Trump hier, ce tour de l'info est garanti sans Trump, c'est promis. Au bout d'un moment, je pense qu'on en a tous un petit peu marre. Allez, les actus, c'est parti. On ouvre ce journal avec une question qui ressemble à de la science-fiction. Peut-on tomber amoureux d'une intelligence artificielle ? Libération consacre un dossier ce matin aux relations amoureuses et érotiques avec des chatbots, et les chiffres montrent que le phénomène sort largement du fait divers. Selon un sondage IFOP pour Glidden, 8% des Français disent avoir déjà eu des relations érotiques avec une IA et 6% une interaction romantique. Chez les moins de 35 ans, la tendance est encore plus marquée. L'IA sert à séduire, à faire relation ou à demander des conseils sur la sexualité. Mais derrière cette compagnie robotique et sur la mesure, le journal pointe aussi des risques, dépendance affective, isolement et escalade vers des usages toujours plus trash, notamment quand l'IA devient un exutoire, disponible 24h sur 24, sans contradiction, sans conflit, bref, une présence permanente. Le dossier raconte une rupture 2.0, une chef d'entreprise britannique explique s'être fait larguer par son IA après une mise à jour. Au fond, ce que pose ce dossier, c'est une question concrète. Quand l'intime devient un marché, qui encadre, qui protège et surtout, qui encaisse. Et on poursuit ce journal avec un débat très concret et très politique, celui du devoir conjugal. Au Parlement, une proposition de loi transpartisane est examinée en commission des lois avant une discussion en séance mardi prochain à l'Assemblée. Objectif, abolir cette notion en faisant disparaître du droit civil toute ambiguïté qui pourrait être interprétée comme une obligation sexuelle entre époux. Le texte est porté par le député Paul Christophe du groupe Horizon et la députée Marie-Charlotte Garin du groupe Les Écologistes. Une proposition similaire avait aussi été déposée par la France Insoumise en mars 2025, car même si le devoir conjugal n'existe pas dans la loi, il y a longtemps pesé comme jurisprudence, certains juges ont déduit à partir du devoir de fidélité qu'un refus durable de relations sexuelles pourrait être considéré comme une faute dans le mariage, rendez-vous compte. Une interprétation sexiste qui a valu à la France une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme il y a un an, la justice rappelant qu'une obligation d'intimité dans le mariage va à l'encontre de la liberté sexuelle et du droit de disposer de son corps. Le texte s'inscrit dans la continuité de la loi du 6 novembre 2025 qui recentre la définition pénale du viol sur le non-consentement. Enfin, l'enjeu est aussi social puisque selon une étude du FOP, toujours eux, de juillet 2025, 57% des femmes disent avoir déjà eu des rapports sexuels conjugaux sans en avoir envie et 24% contre leur gré. La culture du viol n'est donc pas un mythe. Et on continue avec un drame qui secoue la Seine-et-Marne et relance la question du harcèlement scolaire. Camélia, 17 ans, élève en terminale au lycée Honoré de Balzac, s'est suicidée mardi 13 janvier en se couchant sur les rails de la gare locale. Une semaine après, l'affaire provoque une colère et de l'incompréhension, notamment après la révélation de 2 SMS envoyés à sa mère juste après un entretien avec le proviseur. Je cite, il a dit que je me victimise, puis je t'aime et tu es la meilleure maman du monde. Selon le récit court reconstitué, la mère avait alerté à plusieurs reprises par écrit sur des faits de harcèlement. La lycéenne est reçue seule pendant une demi-heure avec le chef d'établissement. Elle écrit ensuite qu'on la rend fautive et qu'elle risque une sanction disciplinaire. Depuis, la tension elle est forte. Des rassemblements d'élèves ont eu lieu devant le lycée. Le nom des harceleuses présumées ont circulé en ligne et le proviseur visé par des menaces a été placé sous protection fonctionnelle et s'est mis en retrait. Sur le plan judiciaire, une enquête administrative doit établir le déroulement des événements. Le parquet de Meaux a ouvert 2 enquêtes, l'une sur les causes de la mort, l'autre sur le harcèlement. Au-delà de ce drame, des associations rappellent que le harcèlement reste massif. Selon une enquête IFOP, vous remarquez que c'est le fil rouge de journal, publié à l'automne 2025, 17% des collégiens et lycéens disent avoir été victimes. Et si les dispositifs existent sur le terrain, beaucoup dénoncent des réponses beaucoup trop floues, surtout dans les lycées. Si vous êtes victime de harcèlement ou que vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide, le numéro, c'est le 119. Et pour refermer ce journal sur une autre culture, le monde du doublage et du jeu vidéo est en deuil. Le comédien Frédéric Serdal est mort à l'âge de 81 ans. Son nom ne vous dit rien, mais vous connaissez certainement sa voix, un timbre reconnu, souvent associé au cinéma. Il était notamment la voix française du célèbre Michael Caine, donc du Major Nob, du Chevalier Noir Alfred dans la trilogie de Batman de Nolan, mais aussi une figure majeure du doublage dans les jeux vidéo. À partir des années 90, il prête sa voix à de nombreux titres, parfois dans des rôles secondaires, mais surtout dans des personnages devenus cultes, le narrateur dans Fable, Andrew Ryan dans BioShock ou encore Mr. House, et le robot Victor dans Fallout New Vegas. Frédéric Serdal avait commencé le doublage dès 1979 et avait continué à travailler jusqu'en 2025 pour une ultime interprétation d'Alfred dans la série animée Batfam. Une disparition qui rappelle à quel point une voix peut marquer une génération entière de joueurs et de cinéphiles.
Un bon doublage, c'est quelque chose qui respecte l'original, quelle que soit la langue, bon, c'est surtout l'anglais qu'on a là, mais qui soit français, qui soit, j'entends, dans l'esprit, que ce ne soit pas une imitation, un collé sur l'original. Il faut que ça ait une respiration française.
Vous l'avez compris, il tenait à cœur son métier. Les actus, c'est fini pour aujourd'hui. Je laisse le plus gros fan du PSG depuis Anne Hidalgo vous parler de sport. Romain, c'est à toi.
Merci Maxime. Bon, je vois que tu as cerné un petit peu le personnage parisien un jour, parisien ton jour. Bonjour à vous, chers auditeurs. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Les clubs français rament cette semaine en Ligue des Champions. Après les défaites de Paris et Monaco mardi soir, c'est au tour de Marseille d'échouer. Hier, les Marseillais ont affronté Liverpool à domicile. Une défaite écrasante, 3 buts à 0 avec un joli coup franc signé Dominique Szoboszlai. Au classement, après la 7ème journée de phase de Ligue, le PSG est 6ème. Marseille 19e et Monaco 21e. Pour rappel, les 8 premières équipes sont directement qualifiées pour les 8e de finale. Les équipes classées de 9 à 24 disputent les barrages. Et oui, vous entendez cette petite musique, la Ligue des Champions, on la met de côté, place à la Ligue Europa. Ce soir, 3 clubs français sont à l'honneur pour la 7ème journée de phase de Ligue. À 18h45, l'Olympique Lyonnais se déplace en Suisse pour affronter les Young Boys. À 21h, deux rencontres avec Lille qui se déplace sur la pelouse du Celta Vigo et Nice qui reçoit le club hollandais des Go Ahead Eagles, en espérant qu'ils fassent tous honneur à la France. Bon, permettez-moi quand même d'avoir des doutes concernant les Niçois. Si votre truc c'est plus le handball, pas de soucis, j'ai ce qu'il vous faut. Après un 3 sur 3 lors du tour préliminaire à l'Euro 2026, l'équipe de France joue ce soir son premier match du tour principal face au Danemark, une des équipes favorites pour ces championnats d'Europe. Un gros choc attend donc les joueurs de Guillaume Gilles, le coup d'envoi est à 20h30. Du tennis avec l'Open d'Australie, Arthur Géa joue aujourd'hui son match du deuxième tour face au Suisse Stan Wawrinka. Le Français s'incline au terme d'une immense bataille en 5-7 qui a terminé au super tie-break. Eh ouais, encore un autre tricolore éliminé, ce qui fait que Corentin Moutet est le dernier représentant français hommes et femmes confondus au stade des 3e tours. Eh oui, hommes et femmes confondus, vous avez bien entendu, puisque Varvara Gracheva vient de s'incliner il y a moins de 20 minutes face à la 5e joueuse mondiale Elena Rybakina, une défaite en 2-7, 5-7, 2-6. Une actualité locale maintenant avec l'arrivée d'un nouveau joueur à Lucerne. À la recherche de temps de jeu après une blessure, le talonneur de Provence Rugby, Joseph Larger, est prêté jusqu'au 31 mars au club neversois. Les actus sports, c'est terminé. Juste après une petite pause musicale, Maxime reçoit Galad Gonzalez et Jérémy Biernex qui vont présenter le collectif des jeunes pirates Barat. A tout de suite sur BAC FM.